Bonjour Christophe Dansett.
Bonjour Pauline.
Que va-t-il se passer si le gouvernement Barnier tombe? Est-ce que ça veut dire que la France va se retrouver sans budget?
Alors non, pas tout à fait, parce que s'il tombe, il y a quand même un article de la Constitution qui a prévu ça, c'est l'article 45 qui dit que le Parlement peut adopter un projet de loi spécial l'autorisant, je cite, à continuer à percevoir les impôts existants. En clair, c'est donc le budget de cette année 2024 qui devrait être repris à l'identique sans être relevé de l'inflation. Ça veut dire qu'on ne se retrouvera pas dans une situation un peu à l'américaine, c'est-à-dire de shutdown. Les fonctionnaires continueront à être payés, les Français continueront à payer des impôts. Le cas s'est déjà produit deux fois sous la Ve République. En 1962, après une dissolution, le gouvernement n'avait pas eu le temps de faire voter le budget. Et puis en 1979, parce que le Conseil constitutionnel avait retoqué le budget de Raymond Barre pour une erreur de procédure.
Pas de situation de shutdown comme aux États-Unis, mais un budget 2024 reconduit donc, qui devrait faire des gagnants et des perdants.
Alors on va commencer par les perdants. Il faut dire que ce sont surtout peut-être les plus démunis. D'abord ceux qui mécaniquement devront payer des impôts parce qu'ils ont connu une petite augmentation de leur salaire en fonction de l'inflation. Ils se retrouveront imposables alors qu'ils ne l'auraient pas été dans le budget 2025. Selon Bercy, ils sont 380 000 dans ce cas. Et puis il y a ceux qui pour les mêmes raisons changeront de tranche d'impôts qui devront donc payer plus. Ils sont plus de 17 millions dans ce cas. Selon Bercy, un couple gagnant 1 800 euros chacun verrait son impôt augmenté de 100 euros par mois, c'est donc pas rien. Parmi les perdants, il y a aussi les agriculteurs qu'on a beaucoup vu manifester, à qui le gouvernement avait fait diverses promesses, dont une meilleure retraite, des aides à l'installation pour les plus jeunes. Tout ça, c'est suspendu. Certains secteurs se retrouveront également pénalisés. L'immobilier, qui devait profiter d'un prêt à taux zéro élargi, mais aussi certains ministères, la défense, la justice, l'intérieur, rendant un certain nombre de recrutements incertains dans la police, dans les tribunaux et parmi les militaires.
Voilà pour les perdants, il y a les gagnants?
Eh bien, les gagnants, bah, c'est inversement ceux qui sont plutôt plus favorisés. Il y a les retraités, d'abord, que Marine Le Pen avait voulu protéger, qui bénéficieront d'une hausse de leur pension en fonction de l'inflation au 1er janvier, contrairement à ce qui devait être prévu dans le budget 2025. Il y a surtout aussi les vrais plus riches, hein, ceux qui gagnent plus de 250 000 euros pour un célibataire, 500 000 euros pour un couple, que le gouvernement voulait taxer à 20% minimum. Il y a les plus grandes entreprises qui échapperont elles aussi à une surtaxe. Même chose pour certains secteurs, l'aérien, le fret maritime ou encore les jeux d'argent. L'objectif de ce budget, c'était de trouver des recettes supplémentaires. Ça ne sera pas le cas. Mais attention, ça ne signifie pas que la situation sera figée durant toute l'année. Un futur gouvernement pourrait faire adopter un budget rectificatif dès que possible, à condition de trouver d'abord ce gouvernement et qu'il réussisse à le faire voter ce budget.
Michel Barnier a agité, il l'a redit encore hier, le spectre de la crise financière. Pardon, si son gouvernement était démis, est-ce que c'est un vrai risque?
Le budget avait pour objectif d'assainir les finances publiques qui ont très fortement dérapé depuis plusieurs mois. Les agences de notation, Bruxelles aussi, font pression sur la France pour qu'il y ait cet assainissement. Donc oui, il y a un risque de voir des taux d'emprunt augmenter fortement, alors que la charge de la dette, c'est-à-dire ce que la France paye chaque année dans ses crédits, représente déjà plus de 50 milliards d'euros cette année, 55 milliards d'euros l'année prochaine. C'est le troisième poste de dépenses de l'État après l'éducation et après la défense, et ça pourrait bien être le deuxième très bientôt. Et c'est vrai que déjà depuis quelques semaines, l'écart de taux d'emprunt entre la France et l'Allemagne, ce qu'on appelle dans le jargon financier le spread, s'est accentué. Il est à environ, il y a 0,84 points de différence ce matin. La semaine dernière, c'était même monté à 0,89 points, au plus haut depuis 12 ans. La France, elle emprunte aujourd'hui aussi cher ou presque que la Grèce. C'est un symbole puisque la Grèce, il y a 12 ans, c'était le pays européen en faillite. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'on est aujourd'hui dans la même situation que la Grèce il y a 12 ans. Parce que l'écart de taux, le spread entre l'Allemagne et la Grèce il y a 12 ans, c'était 40 points et pas 0,84 points. On en est loin. Notons enfin que les taux ne se sont pas particulièrement envolés. Depuis les deux motions de censure, on emprunte d'ailleurs plutôt moins cher ce matin que la semaine dernière.
Un mot des marchés ?
Oui, un mot des marchés, pas de crack, hein, là aussi, plutôt de stabilité. Si on regarde les trois derniers jours, et même encore ce matin, ouverture dans le vert, les marchés ne sont pas particulièrement inquiets parce que les entreprises du CAC 40, eh bien, ce sont avant tout des multinationales qui profitent aussi d'une situation internationale plutôt favorable. Ceci dit, ces multinationales, ces entreprises du CAC 40, elles opèrent sur d'autres marchés que le simple marché français. C'est très différent pour les entreprises plus petites qui attendent, elles, beaucoup plus du marché français, des commandes publiques notamment, et elle redoute fortement les jours à venir.
Merci beaucoup Christophe.